olives, à l'ail, au capre et aux anchois, truffés de tomates et courgettes. Nous voilà accommodés à la provençale, à la paysanne, à la cévenole, à la vigneronne. Adultes, on pense à nous manger en daube, patates des îles, patates week-end, aux bananes flambées, à l'espagnole, l'américaine, la polonaise et la danoise. On fait la nique à poules, dindes et dindons, sommes-nous vautours femelles ou pintades. Judicieusement, on nous dénomme, consomme, patate, mystère.
Radio Libertaire 89.4.
Bacchus, dieu du vin et de l'inspiration,
de la vigueur féconde et de la procréation,
les du feu élevé par la pluie,
c'est un dieu des plaisirs de la vie.
La musique.
Caravanana maximum.
Chagueux, je me fous du.
Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
Zanashim, domen mi zahraka, zanashim, domen me.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Les forces guerrières de la sagesse viennent à la lutte, que s'il y a l'éclat de poignard, des levées héliaques dans le baudrier du barde miraculé, tous les cris s'échappant en cambrure de cygnes, leur halo dans tous les lacs lâchés dans la lys, les axiomes alliés déterrés par le romarin, et la sauge fumant dans la faune du fracas, des vies rattrapées par un brin à brandir. Sinon, à quoi bon les déplacer des bords des abîmes, où elles lèvent une jambe en même temps que l'amitié dans leurs mains, et un sourcil d'étonnement irrécupérable, tant ensemble, elles dansent de délices, de pensées par la menace bleu ciel, que rien n'évite au loin. La marque salutaire de leur regard échancré de dépassement des appels. Deux. Mieux vaut que nos soleils s'éclipsent, posture céleste de résistance, mieux vaut que nos soleils ne tiennent plus à être, sous les arbres, ils cachent leurs dons, sous les lettres, leurs responsabilités, étant en leur halte tout de go, avec un gré un grès bien huilé, bien affûté et qui remue, un savoir grès, à dégober les couleuvres de l'obscurantisme, jusqu'à nous rendre à une douleur volontaire, ferment de l'incantation jusqu'à la mue. Le corps est outillé d'une nudité buissonnante de formules. Son rêve, l'écume, son accueil, l'arboricole. Tant que le corps est fidèle à sa nudité, tout enveloppé de langue, ses attributs l'accompagnent. Et la solitude, attribut des attributs. Il y a le stylo trempé de mes songes que je croise avec le glaive des rêveurs de Marina Tsvetaeva et le couteau des rêves d'Antonin Artaud pour convoquer les moines et les nonnes de leur débord aguerri. Quelle offrande, quelle invention leur art du combat. En solitaire, en perte de plis, en chemin de montagne. En chaque station, ils articulent l'impossible dans un rituel. Leurs phrases animales remuent les voiles. Leur sommeil pratique la descente dans l'arène. Avec la souplesse des vers contemplés, ils, elles, prennent une à une toute la monnaie des arrangements et jonglent tour à tour, tels des aigles et leurs ombres, avec ces bouts de masques et de stratèges, à leur faire perdre le sens unique et son divertissement dans leur houle de sabres somnolents. Il y a le bouclier que je dresse en table d'hospitalité avec les marchands du sacrifice conviés à voir dans ces cernes l'histoire préhistorique de la poésie et fixant le nombril terrestre à voir frémir le principe de l'œuvre, celle qui les recrachera plus simple dans le retour de la pousse. Pousse de chaos qui nous pousse vers l'autre, plomb vert qui pétarade, surgeons qui nous prennent la voix, épopée de la reverdie à chaque dit de joie rebelle, vénérable fragilité du panache encore blanc d'obscurité. Sa venue nous sauve de l'arrêt et des épines alors saillantes, plus réelles que nous. Les index sur le marteloir du bouclier. Comme nous, les civilisations se sont penchées au-dessus du périple d'une naissance engrenée par laquelle se démesurer devant les calices des ombelles et les crocus de sa propre nécessité à ne pas capituler devant ses carapaces. Appelle, croc, appelle, cristal, appelle, coupe, qui appeler pour élaguer les synthèses? Il y a, vous parlez à double tranchant. Avant que l'heure basse délivre l'ombre du disciple, rêve et générosité sont un martin pêcheur et une poule d'eau, sont deux pies tutélaires, sont un regard. Il escorte le corps vers un soleil plissant. Au front brille la solitude et ouvre la place gibbeuse d'un peuple fantastique donnant danse aux plus durs et langue de temps, de grâce à la gravité du temps, corps ululé, guerrier, guerrière, gazouillant. Ô pauvreté chérie, qui m'a donné le monde et le sexe du monde, ne les écoute pas, ils ne savent être que d'un côté. Aux murs invisibles, nous ne demandons pas encore combien d'années. Nous admirons le plantain des trottoirs. Nous tournons les rythmes pour les vents, les libérer du dédale, avec les yeux du papillon sur l'éléphant, et le ton d'un ossuaire, dans le mont analogue de nos langues. Nous tournons parmi les utopistes, à trébucher de plaisir sur leur humour raréfié, comme eux nous tournons ce qui n'est pas vers ce qui est. Illuminés, nous dorons la béance. Nous tournons dans la béance dorée, dans le mont orifice du renouveau de nos langues. Nous tournons l'orage de notre abandon. Qu'il éclate ses vertus en nous par petits chocs, âge après âge, une secousse pour tout degré. Nous tournons, nous abandonnons à l'autre, l'âme monde de la pierre ouvrière. C'est la danse combat d'un pied de vigne qui reste enraciné avec les siens. Quand bien même la tramontane et le mistral s'enroulent dans sa tête, revenant les rouleaux brusques, ses rotations lentes sont plus fortes, elles sont le secret de l'ivresse. Avant le sucre, la guerrier guerrière ne va pas au combat sans sa paix. Il ne lui suffit pas de la monter en neige afin d'attirer la grue. Le premier acte de paix est de se déclarer guerrier guerrière. Atteindre sa paix est le premier acte du combat. Il prend une vie, vague une vie entière dans chaque jour et une dérive dans chaque vie. De l'eau du jour, eau de lymphe, glissant du gosier de la mort, eau de dauphin, entre les pétales diaphanes du calice, eau de temps perdu, à saisir en marchant jusqu'à la prononciation dérobée et le relâcher de crypte dans la cathédrale du bas-ventre choral, au réveil de l'eau en l'air par la langue focale. Vienne la paix, la base active du combat, tout le combat et l'évasement de la paix, l'eau frôlée, goutte d'entre-deux, goutte d'autonomie, goutte de libre arbitre, goutte d'autonomie, goutte d'entre-deux, goutte d'entre-deux, goutte de libre, goutte exaltée d'autonomie, goutte d'entre-deux d'autonomie, de libre exaltée, goutte sur le bout de la langue, le bout bu. Elle le fait boire, cet iris de la nuit sans étoile, cet arc-en-ciel du bord des sens. L'outrepassé en C, abaissé bassin, penché hanche, fléchi flèche, l'itinéraire du plaisir ployé, inclinés à nous, se déverse la prosternation aux pieds des corymbes rallumées de l'épervière jaune, hérissée du devoir d'extase ressuscité. Les ellipses pleurent le contact avec leur foyer. Soudain, fange se pense autre. Buvons la langue dans une éprouvette d'alchimiste, mélangée au sirop des souffrances. Passeuse, elle nous baignera dans l'autre état. Et plus rien ne pourra nous arrêter.
Bravo. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM à Paris et en région parisienne, et radio-libertaire.net dans les Pyrénées-Orientales, dans le Morvan, en Normandie. Voilà. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Serra, que nos fidèles auditeurs auront sûrement reconnu, je pense, puisque elle est venue plusieurs fois à l'émission, en 2019, en 2022. Alors, elle vient de nous faire une très belle lecture d'un extrait de son nouveau livre, « Dans ce combat ». Alors, la poète Anna Serra est dans notre studio. Salut Anna.
Salut Patricia.
Nous accueillons également avec joie Stéphanie Boubli, éditrice des éditions Supernova et poète également. Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour à toutes les deux. Alors Anna, on va commencer là, tout de go. Parlons un peu de Dans ce combat dont tu viens de nous lire un extrait. Avant de parler de sa belle couverture rouge et du premier texte, la dédicace que tu as écrite en exergue, on va parler de ces six épigraphes, de ces six citations en exergue du livre. Pourquoi six, deux par deux? Ce n'est pas banal, autant de citations en début de livre, non. Et donc pourquoi un tel nombre? Pourquoi une telle présentation? Et de qui sont ces citations? Et peut-être quels sont les liens concrets avec ton texte?
Alors, en effet, avant d'entrer dans le recueil de Dans ce combat, se présente une sorte de couloir, un sas, qui est aussi une forme de rituel. On va être loin de la lumière du jour et de ses bruits. Et pour rentrer dans cette grotte, eh bien, on se met à quatre pattes et on passe par un couloir. Voilà. Et c'est, alors, on n'est pas obligé de lire les citations à quatre pattes, mais c'est l'idée du retour à une forme d'animalité avant de se redresser avec un texte qui fait une lumière différente de celle du jour, mais qui fait le jour, je l'espère. Et ces citations vont par deux, en effet. Et si on regarde bien, elles avancent de façon chronologique. On commence avec l'hymne à Bacchus d'Horace, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, la guerre sainte de René Daumal, le métier, Marina Tsvetaeva, à la pleine lune, Fadwa Suleiman, épreuve exorcisme, Henri Michaud. Et Alors, on n'a pas systématiquement ce couple masculin-féminin, auteur-autrice, mais j'ai essayé de le tenir quand même, avec René Daumal et Marina Tsvetaeva, Fadwa Souleiman et Henri Michaud. Donc non seulement il y a cette progression dans l'histoire qui montre que le combat date et qu'il continue, et ce combat, il prend plusieurs teneurs, plusieurs formes selon les auteurs. En tout cas, à chaque fois, la réponse au combat prend la forme de la poésie chez ces et la poésie n'est pas séparée du combat. Elle est l'expression d'une lutte intérieure pour maintenir la flamme. Et chacun, à sa manière, fait référence à ce combat. Est-ce que je reprends les exergues plus précisément ? Alors, j'aimais bien cette idée d'un Bacchus qu'on associe seulement au jeu, à la fête, à l'ivresse. Et tout d'un coup, Horace nous attire notre attention sur un Bacchus, un Dionysos, qui s'est concilié en lui à la fois la paix et la guerre. On te réputait bien impropre au combat, or tu conciliais en toi-même à la fois la paix et la guerre. Et je pense que c'est venu éclairer une nécessité chez moi de faire de la place à cette énergie du combat, de l'énergie du désir qui est celle de la violence aussi, et qu'il n'y a pas à vouloir choisir entre la paix et la guerre, et que ce sont deux contraires d'une même médaille. La deuxième citation dit la même chose avec cet art du tir à l'arc. On fait du combat un art qui ne cherche que l'unité en soi, en fait, et qui nécessite une initiation. La citation commence avec le maître du tir à l'arc, dans sa cérémonie. Et donc on a là tout de suite un télescopage entre deux activités, l'une qu'on associe à la fête et l'autre au combat. Et encore une fois, comme Dionysos et Bacchus, c'est en une seule et même personne que se concilient ces deux arts. Mmh. C'est la recherche de l'unité des énergies. La guerre sainte de René Daumal fait référence à une guerre intérieure, contre nos mensonges intérieurs, contre nos propres masques, et nous invite à aller au dedans. Voilà. Je continue là un peu de poser mon regard sur ces citations. Ensuite, Marina Tsvetaeva, cette magnifique poète de la dignité et du coup de cygne blanc en plein milieu de la rage, de la défaite, du combat, de la déchéance. Elle appelle mon cheval, mon front, mon soupir, cavalier, cheval, doigt, paume. Voilà. Elle est dans ces formules qui la tiennent debout. Voilà. Et Fadwa Souleiman, à la pleine lune, autrice, poète que j'ai eu la chance de connaître dans sa ferveur, dans son combat et dans cette flamme de poésie qui était sa flamme pour tenir debout. Et à la pleine lune fait référence aussi directement à Dans ce combat, qui est constitué d'un ensemble de poèmes portant les numéros des phases de la lune.
Ah, voilà.
Et enfin, Henri Michaud, qui n'a pas hésité à faire de la poésie l'espace du combat pour que le corps puisse se déchaîner, se démembrer, attaquer l'autre, attaquer son double. Et donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce couloir, ce sas de transition vers le texte. Voilà.
Ok. Donc c'est... Cela me semblait important de s'attarder ces citations en exergue. Et aussi, dans le poème, tu fais plus que citer certains poètes. Tu dis le glaive des rêveurs de Marina Tsvetaeva, le couteau des rêves d'Antonin Artaud, le mot analogue. Et puis après, tu parles de l'histoire préhistorique de la poésie. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça, en fait? Moi, j'ai compris ça comme ça. C'est-à-dire que c'est important. Tu fais référence à ces poètes, pas seulement comme une référence, mais parce qu'en fait, ils sont vraiment à l'intérieur de toi et de ton écriture.
Mmh, ils sont dans la grotte, oui.
Voilà.
Le mot analogue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une allusion au mont imaginaire de René Daumal qui relie la terre et le ciel, le visible et l'invisible. Oui, et puis l'histoire préhistorique, non seulement parce que ces auteurs sont dans ma grotte, mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas de savoir si les hommes préhistoriques utilisaient ou conscientisaient le fait qu'ils faisaient de la poésie, mais c'est surtout cette recherche de contact entre terre et ciel, ce point de contact qui est l'extase et qui se trouve à travers l'association avec un animal, à travers un rituel de rassemblement qui suit les cycles lunaires ou solaires ou des saisons, rituel de chasse, enfin tout ce qui est associé au cycle et qui nous rassemble et qui se fête et se célèbre. Toute envie en fait de retrouver ce point de contact avec une forme d'intuition de totalité, que ce soit conscient ou pas. Et c'est ça pour moi aussi l'histoire préhistorique de la poésie, c'est cette intuition de l'extase.
Okay. Alors peux-tu nous faire part des raisons de l'écriture de ce livre de s'il te plaît, ouais.
Il y a j'ai une part de réponse, parce que a posteriori on peut toujours élaborer une historicité, mais après il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans le geste d'écriture, parce qu'il appartient à une nécessité profonde, une nécessité d'air, un appel d'air, une nécessité de remettre en ordre la matière du chaos. De remettre en ordre cette matière par le souffle, par le verbe, par l'esprit, par la direction, parce que pour moi écrire c'est donner une direction au langage et retrouver un axe en fait de communion avec l'environnement de vie humaine vivante. Et donc il y a cet appel et cette nécessité, cet appel d'air qui arrive souvent sous forme de crise, même je dirais, quand le mur de la matérialité de nos vies est trop dur, trop haut, la matérialité des besoins de la vie, le mur aussi que peut être la maladie, que peut être l'incompréhension face à ce qui se passe proche de nous ou loin de nous dans le monde, hein. Je parle de l'absurdité des violences, voilà, toute cette incompréhension, ce point d'interrogation là qui forme un mur à l'intérieur de moi quand on a envie d'agir, de participer, et la poésie est une forme de communion, de prière qui me rend présente à tous ces endroits là et de mon corps souffrant quand il souffre de maladies. Et à tous les endroits qui ne sont pas mon corps, en fait. Voilà. Donc, c'est né d'un appel d'air, d'un appel à être présente sur tous les lieux du combat, qu'ils soient clairement médiatisés ou qu'ils soient juste présents dans notre corps ou proche de nous. Et aussi pour m'arracher une couche, en fait. Je crois que chaque livre est une forme de peau que je m'arrache pour que la flamme puisse continuer de monter. C'est ça le sacrifice, c'est faire le feu et faire en sorte qu'il y ait quelque chose à brûler. Et donc à un moment donné, je prends cette matière qui m'étouffe, cette matière qui est faite de tout ce à quoi j'ai été sensible dans mes lectures, dans mes rencontres, dans mes maturations de vie, et toutes les réflexions ambiantes. Voilà. Et je suis le fruit de cette interaction. Et tout d'un coup, ce fruit, il a besoin d'un acte, d'un geste. C'est d'aller arracher. La direction du langage, quoi. Et dans ce combat est venu m'apporter une respiration, rythmée dans le cycle lunaire, puisque chaque poème de Dans ce combat est associé à une phase de la lune et vient danser son souffle, son verbe, ses mots. Dans une acceptation du combat, dans une acceptation de l'adversité. C'est un grand texte de l'acceptation, en fait, de la totalité du désir, en fait. Ce désir qui me permet de créer, mais qui me fait aussi détruire pour créer. L'acceptation de cette violence en soi. c'est tout ça pour moi dans ce combat. Voilà, en fait, il m'a appris à accepter, il m'a appris la philosophie du combat, il m'a appris que la paix était dans cette acceptation de la violence intrinsèque à ce désir de vie, en fait, d'aller manger du monde, en fait. D'aller manger du monde, oui. Je crois que pour survivre, j'ai besoin d'aller manger du monde, oui. Mmh. Et le poème me permet de me nourrir. Ouais.
Au début du texte, il y a une adresse de ta main, écrite par toi, une adresse. Et alors, cette adresse, elle m'a fait penser aux adresses que on reçoit dans la newsletter de La Perle à chaque fois. Et alors La Perle, donc c'est la ferme de poésie dont tu t'occupes, dont 2020. Tu es la maîtresse d'ouvrage depuis 2020. Donc c'est une ferme de poésie, hein, c'est vraiment. Et donc j'ai pensé à ça et je me suis dit peut-être que les conditions d'écriture de Dans ce combat, de ce recueil, sont vraiment très liées à La Perle.
Oui, c'est juste. C'est juste, puisque La Perle est un lieu qui, quand je l'ai rencontré, ressemblait, décidément, on dit beaucoup le mot grotte, mais c'est vrai que c'était une forme de grotte dans laquelle il a fallu survivre, dans le sens où il faisait froid, très froid, puisqu'on était dans le Morvan et que je ne suis pas née avec cette aptitude forcément à lutter contre le froid venant de Perpignan, que le toit était troué, qu'il y avait des fuites d'eau, que l'eau, il n'y avait pas encore d'eau, etc. Bref, c'était une aventure qui a demandé beaucoup de corps, beaucoup de luttes, mais c'est vrai que Dans ce combat a été écrit principalement à la ferme La Perle. Et puis c'était aussi se confronter à un milieu qui ne comprenait pas, enfin le milieu des artisans qui ne comprenait pas forcément la notion de maîtresse d'ouvrage, poète surtout, qui s'improvise maîtresse d'ouvrage, il y avait ça quand même aussi. Donc il y avait aussi, oui, une lutte à essayer de se faire comprendre, mais c'est tout ce que j'ai dit avant, en fait, c'est-à-dire le mur de l'incompréhension générale des comportements entre les humains, l'incompréhension en soi, surtout d'aller chercher ses mensonges, d'aller chercher ses illusions, d'aller chercher son besoin, en fait, de violence, et d'aller dans cet aveu là, la poésie est confession d'abord par ça, en fait, par ses propres aveux qu'on met sur la table, et toute expérience, et notamment celle de La Perle, m'a fait mettre encore et encore des éclairages sur notre nature, sur notre passage sur Terre, et elle est forte, cette expérience de vivre à La Perle. Donc forcément, Dans ce combat est relié à ce texte, mais encore une fois, c'est au-delà de ce lieu.
Ok. Alors justement, c'est au-delà. Et il me semble que dans ce combat, alors dis-moi, hein, parce que peut-être que je vais trop loin, mais il me semble que ce livre, donc Dans ce combat, relève un peu du manifeste, en ce sens qu'il revendique le travail, il circonscrit le travail du poète, l'importance de la langue qui est presque personnifiée, presque autonome en fait, et en même temps reliée.
Ah, j'aime bien ces mots de autonome et relié.
Alors, c'est étrange, parce que moi, justement, une des choses qui m'a touchée parmi tant d'autres, et je pourrais m'exprimer un peu plus tard là-dessus, mais c'est justement, je trouve qu'il y a une absence de revendication. Et justement, pas une revendication, et c'est une des raisons qui m'a fait accrocher tout de suite à ce texte-là, parce que c'était aussi un moment où moi j'avais envie de revendiquer rien du tout, mais c'était plus une confirmation de mes intuitions qu'elle écrivait avec toute son érudition et tout ce travail de la langue. Donc c'est intéressant de justement, moi j'ai J'ai trouvé que c'était l'inverse de c'était pas quelque chose qui souhaite prendre de la place ou qui souhaite, c'est pas un texte qui crie, c'est pas un texte
qui... Ah mais je l'ai pas pris comme ça. Hein.
Ouais. Non mais c'est intéressant du coup parce que ça nous permet de clarifier ce mot de manifeste. Parce qu'en effet il y a plusieurs interprétations dans ce mot de manifeste. Il y a le manifeste politique qui revendique un nouveau programme et qui veut créer une communauté autour. Donc en ce sens-là, il est clair que c'est pas dans ce combat. Mais Patricia non plus, tu éclairais, j'ai bien compris, le manifeste en tant que manifester une réalité.
C'est ça.
Se manifester à travers une langue à part. Et donc manifester une identité plus réelle, une identité plus totale à travers ce manifeste. Mais c'était important de clarifier. Donc merci pour ton intervention. Parce que c'est vrai qu'on peut des fois... être dans des évidences. Et donc, en ce sens-là, oui, on peut dire que Dans ce combat fait partie des poèmes manifestes, c'est-à-dire des poèmes performatifs, qui sont issus d'une crise, en fait. C'est ce geste nécessaire de planter un poème pour survivre. Et de le planter pas entre soi et soi, de le planter en essayant d'être à tous les endroits. Et pour ça, il faut une langue qui soit capable de voyager à tous les endroits en même temps, qui soit sur les bords, qui soit libre du diktat d'être comprise, qui soit autonome et reliée, comme tu dis, et qui forme autant de vases dans lesquels on peut couler notre propre participation, en fait. C'est-à-dire toutes ces formules de danse-combat, c'est des appels, en fait, à ressentir le son de la langue, le pouvoir de la langue, le pouvoir de l'opacité de la langue. Quand elle s'obscurcit, elle commence à devenir menaçante. Mais qu'est-ce qu'elle veut menacer? Elle veut menacer ce qui est superflu en nous. Elle vient attirer en nous cette lumière qui sait entendre le poème, qui reconnaît le poème. Il y a quelque chose en nous qui est libre du besoin de comprendre. Mais ça demande une pratique. Après, je ne souhaite pas faire un livre en disant « c'est pas grave si on comprend pas ». C'est pas ça. J'appelle à une compréhension participative. C'est-à-dire qu'il y a, on est deux à faire le poème. Le lecteur ou l'auditeur et celui qui écrit. Et la compréhension, elle consiste en recréer l'expérience de pensée qui est proposée par ces formules d'images. Chaque image est une proposition d'expérience, de la pensée. Et la pensée se fait en images depuis que la philosophie existe. Et la poésie est cette expérience extrême de la pensée et qui vient agiter en nous, remuer en nous, le centre, la flamme, la question, qui suis-je, où suis-je, que suis-je? Et la poésie ne vient certainement pas apporter des réponses, mais de quoi brûler, continuer à faire monter cette flamme. Et je pense que c'est cette intuition-là auquel faisait référence Stéphanie, c'est cette liberté-là, c'est cette liberté... De brûler, de faire un feu qui éclaire non pas ce qui va pas, mais ce qui doit être.
Voilà. C'est l'autre état dont tu parles.
Oui, on peut dire ça. Je pense qu'on sait en nous ce que veut dire l'autre état. L'autre état qui fait que rien ne nous arrête. Cet autre état qui est l'endroit de la source de nos forces. On a tous eu à aller chercher des ressources qui nous ont surprises, qu'on ne pensait pas, qui étaient insoupçonnables en nous. Et ces ressources là, elles nous rendent presque elles nous protègent. On sait qu'on peut toujours creuser plus loin vers cette source. Parce que cette source-là, elle anime en nous la distance, cette distance, cette fameuse distance qui fait qu'on se détache de nos identifications. Et dans cette distance, il y a l'air, il y a l'air suprême.
Mmh. Alors que les bordels fleurissent dans le désert du Nevada, Extrémistes Hindous et Bonheur ont une enfance parmi oiseaux et fleurs. Leur précepteur, qualifié Keep School, est un génie. Il a ce qu'on appelle un relief. La semaine dernière, il a fait naître d'un lave sous-lit un volcan actif très décoratif dont l'effondrement des caractéristiques ontologiques avait momentanément anéanti ses protégés. Mais Equipe School sait que le luxe appartient à une famille bien rodée des aperçus successifs de la vision continue et que c'est grâce à lui que le chien fut dompté, le cannibalisme éradiqué et l'érotisme consommé. Profitant d'un moment de détente dans sa chambre, Keep School ouvre le canapé lit double face, allume une cigarette Power Up à 2 calories et se branche sur Channel One en pensant à Marie Findlay, la femme girafe internée dans un asile psychiatrique pour le meurtre de son mari. Steel Park, divertissement, challenge. Nous sommes devant la citadelle du vertige, une sorte de grand 8 mou dont les bolides sont équipés de sièges ergonomiques monoplaces. Grâce aux lunettes magiques, le décor particulièrement soigné donne dans un camailleux de bleu. Quatre coups de feu sont tirés dans la longue file d'attente et le badge d'identité scripto d'Hélène Ripley devient lumineux. Elle a traversé les longues plaines arides de Stapleton à bord de sa Dodge Nitro poussée à bloc pour arriver enfin devant cette machine vivante censée vous apporter plaisir et challenge. Le départ à la verticale est terrible. Les bolides sont propulsés du fond vers le sommet, un dénivelé de 1979 mètres. La citadelle du vertige est un jeu offensif et des instructions particulières sont données aux participants tout au long de la partie par Storm, qui garde un regard objectif sur les défis et l'action. Les 20 participants sont maintenant réunis au sommet de la superstructure. La mouvance anarcho-autonome hurle en dessous d'eux en déboulonnant un rail de sécurité. Les bolides graissés sont parés pour un premier enchaînement de looping hyper condensé. Le catapultage est violent et 200 roues en caoutchouc les propulsent dans le canon. Ripley est nu dans son carrosse d'opale. La première accélération atteint instantanément la force phénoménale de 10G, ce qui l'a fait s'évanouir quelques millisecondes. Stork déclenche aussitôt le système d'hyperventilation dans tous les bolides quand Extrémiste Hindou déboule dans la chambre suivi de Bonheur. Extrémiste Hindou.
Vous ne devez faire confiance à personne.
Keep School. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Une silhouette se découpe un instant sur la double porte vitrée. Extrémiste Hindou.
Nous tentons de libérer les prostituées du pénitencier rouge qui meurent tous les jours de diarrhée accoudées sur des radiateurs froids, la chair tourmentée de spasmes violents.
Keep School se sert un verre de whisky Malcolm Lowry 12 ans d'âge. Dans la cour, une meute d'adolescents rageurs, coiffés de couronnes de feuilles de palmier et portant différents gris-gris, hurlent des cris de guerre aux tumeurs assassines en déchargeant des rafales de leurs pistolets mitrailleurs dont les crosses ont été moulées à partir d'acier sale acheté à bas prix sur le marché noir de Kinshasa. Les plus jeunes distribuent du vin de palme pour galvaniser les troupes. Les femmes se sont réunies autour de la Pietà, affolées, elles chantent des chansons d'amour à s'en faire chavirer le diaphragme. Keep School coupe le son de la télé tandis que sur l'écran géant, des touristes portant des masques anti-pollution et des 357 braquent sans desserrer la mâchoire 25 millions de diamants dans une joaillerie de Burning State. Bonheur, imperturbable, un plumeau à la main et un genou à terre, tente de redonner vie à des marguerites radioactives ratatinées dont la sève à demi-sèche hésite à trouver un sens, une direction. Dehors, les gamins trépignent d'impatience et les femmes ont cessé de chanter. Un démo m'attrape un rat qui passait par là, il mord à plein dedans et le passe à son voisin. Quelques secondes plus tard, c'est le rire d'un nain qui donne l'alerte. Keep School. Bonne chance. Extrémiste Hindou, à mégaphone à la main, prend la tête des opérations. Dans les loges VIP, les putes du pénitencier rouge se font recoiffer la chatte en buvant des dry martini. Dans la pièce voisine, les producteurs s'empiffrent de petits fourbios boostés à la DHEA, les yeux rivés sur Final Melt, la chaîne câblée qui diffuse en temps réel la fonte de la calotte glaciaire.
Donc, nous venons d'écouter Steel Park, issu de l'album UV, avec Magali Dagno et Cédric Pigot. Alors, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous écoutez Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Anna Serra et Stéphanie Boubli. On parlait, alors, au début de l'émission, de la belle couverture rouge et du beau graphisme de Danse Combat. Vous pouvez nous parler de Magali Dagno et Cédric Pigot et de leur travail sur Danse Combat?
Alors oui, tout à fait. Donc j'ai rencontré Magali Dagno et Cédric Pigot quasiment dès mon arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris de Toulouse en 2008. J'ai dû les rencontrer en 2009-2010 et le projet Supernova est né en 2011. Et à l'époque, je programmais plutôt des sortes d'œuvres d'art éphémères. C'était, on peut appeler ça plus communément des soirées, mais c'était comme pensé dans toute une dynamique d'espace-temps un petit peu particulière. Et je les invitais à jouer en tant que musiciens et plasticiens. Et quelques mois après notre rencontre, j'ai eu l'occasion d'écouter leur compte audio dont je suis tombée tout à fait amoureuse dès la première écoute. Et je leur ai proposé, moi donc à l'époque j'avais pas encore les éditions Supernova, c'est parce que c'était un projet un peu comme ça, évanescent. Et donc le premier livre que j'ai publié, c'est le livre de Magali Dagneau, Cyric Pigot. Donc c'est c'est en faisant ce livre que je me suis dit, tiens, je crois que je suis éditrice, quoi. C'était pas un projet de vie, j'ai simplement, à un moment il s'est passé ça, donc ça m'est arrivé, donc je l'ai fait. Petit à petit, notre collaboration, alors moi je l'ai programmé en tant que plasticien, musicien, où je les ai publiés, puisque j'ai par la suite publié un autre de leurs livres. Mais notre relation, petit à petit, a dérivé vers une collaboration où ils sont devenus les graphistes, en fait, des éditions Supernova. Donc ils travaillent, c'est un couple, hein, à la scène et dans la vie, et donc ils travaillent ensemble sur les mises en page des livres. Donc nous on a deux collections, et sur la collection poésie qui est la première collection, qui est celle que vraiment je défends depuis 10 ans, il y a tout un travail de réflexion vraiment sur le choix des typographies en fonction de ce que dit le texte, de ce que raconte le texte. On a vraiment des heures de discussion sur comment présenter le texte dans sa graphie au sein des livres et les couvertures. Et ces derniers mois, je suis un petit peu sortie je m'étais un petit peu enfermée dans une idée de collection avec des choses qui sont un petit peu tout le temps les mêmes, d'un livre sur l'autre, en tout cas au niveau des couvertures. Et en fait, dans ce combat, le graphisme et cette couverture est un peu le fruit de mois de discussions qu'on a eues avec Magali et Cédric pendant le confinement sur comment ne pas enfermer. J'avais le souhait de ne plus mettre, par exemple, d'illustrations, en fait, sur les couvertures, parce que je trouve que, bon, des fois un titre en dit déjà beaucoup. Rajouter une illustration, je trouvais que ça on pouvait enfermer le propos des poètes. Et donc on discutait déjà depuis quelque temps de autour de la tapisserie, du pattern, qui comme son couloir, comme Anna parlait de son couloir dans la grotte pour accueillir le texte, c'était un petit peu aussi la même idée peut-être de la couverture, c'est-à-dire être un accueil sans trop enfermer, mais qui quand même nous amène alors dans quelque chose qui est presque innommable. Et c'est vrai que cette couverture est rouge, mais il y a là aussi du vert. Qui sont deux couleurs qui étaient Anna, parce qu'on fait les livres, moi je fais pas les livres, enfin c'est-à-dire je fais vraiment les livres avec les poètes et Magali et Cédric, on est vraiment ensemble à quatre, et c'est vrai que ces deux couleurs, Anna nous a dit voilà, je vous laisse carte blanche, je vous laisse carte rouge et verte, parce que c'était son livre et aussi l'entrelacement de la chlorophylle et de l'hémoglobine, et donc c'était quand même, on avait une direction. Et puis c'est vrai que bon, Anna est quand même la première poète que j'ai publiée aussi en 2014. Cédric à l'époque ne réalisait pas les typographies des ouvrages, mais voilà, on a quand même un passif commun tous les quatre. Donc il connaît la poésie d'Anna, lui-même écrit de la poésie, donc bon, c'est comme les poètes qui traduisent des poètes. Je veux dire, à un moment, il y a un truc, on n'a pas trop besoin de se faire des réunions pour savoir ce qu'on veut dire derrière ce qu'on écrit. Et on a parlé, je sais pas, on s'est fait quelques discussions, puis Cédric nous a envoyé cette couverture. Moi je l'ai reçue, parce qu'il me l'a envoyée avant de l'envoyer à Anna, et je me suis dit, mais c'est ça, enfin c'était vraiment ça. Et je me suis dit, bon bah j'espère que ça va plaire à Anna, sinon c'est pas grave, on va trouver d'autres chemins. Et puis c'était immédiatement ça aussi.
Ouais. Il y a dû avoir peut-être une proposition avant, sinon ce serait trop facile. Mais il y a eu un aller-retour ou deux, je crois. Ouais. C'est arrivé très très rapidement, parce que comme dit Stéphanie, il y a un vrai effort de construire le livre après s'être intéressé à son contenu, et ce travail sur mesure qui en même temps ne garde une ligne graphique dont Stéphanie est la gardienne. Pour moi c'est vraiment une chance d'avoir un livre qui n'oublie pas qu'un poème se lit avec l'énergie d'une typographie, avec l'énergie d'une couverture qui va imbiber et imprégner tout le texte. Voilà. Et ces griffures de verre là qui volent et qui, bon, on ne sait pas si c'est, moi j'appelle ça des griffures de verre, mais en fait c'est comme des étoiles filantes de verre là dans le rouge, quelque chose de très vivant. On dirait aussi des herbes au vent. Enfin, en tout cas, il y a une poésie qui n'enferme pas du tout le texte et qui je trouve vraiment vraiment très bien vu. Donc bravo.
Magali et Cédric. Ouais.
Alors, toutes les deux, Stéphanie et Anna, comment vous êtes-vous rencontrées et comment a débuté votre collaboration?
Alors, je peux dire un petit bout, puis tu peux dire un peu la
Vas-y,
suite.
Commence,
je sais pas, je crois que c'était en 2014.
Bah, 13, du coup, j'imagine, puisque. Oh, pff, oui, enfin bon, il y a
voilà.
10 ans.
Il y a voilà. 10 ans. Il y a un peu plus de. Ouais, c'est ça. Eh bien, je me suis laissée entraîner par un poète qui s'appelle Martin Baquero, que j'ai rencontré grâce à mon travail à Radio Marais, où j'apprenais à lire des poèmes à la radio, et puis quelqu'un, je crois que c'est le cirque électrique qui était là dans le studio et qui m'entend et qui dit « Mais est-ce que tu connais la poésie pneumatique, électro-pneumatique de Martin Baquero ?» Ouh là là, non, pas du tout. Il a traduit Jodorowsky, il faut que vous vous rencontriez. Bon, j'écris à Martin, je dis « Martin, écoute, il paraît qu'il faut absolument qu'on se rencontre, que nos poésies pulsent pneumatiquement parlant. » Voilà. Et donc je rencontre Martin et en effet, tout de suite, on va collaborer, écrire un... penser à une interview ensemble, très très original, très créatif, très libre, et Martin me dit à son tour, mais tu dois rencontrer Stéphanie Boubli, d'ailleurs ils font la fête dans
tout le temps
là ce soir, on avance sur notre interview parce qu'on faisait une création sonore, lui et moi, dans son studio, et on essayait d'avancer sur ce projet petit à petit, et puis à la fin d'une première étape on dit, allez, on va rejoindre Stéphanie Boubli, et puis je crois qu'il y avait Magali et Cédric aussi,
ouais.
Dans une rue vers Robert Kampf, vous fêtiez quoi?
Je sais même plus, à l'époque on fêtait tout et n'importe quoi, mais en tout cas le livre UV venait de paraître.
C'est ça.
Donc c'était un moment quand même assez émouvant, parce que quand j'aurais proposé de, j'aurais dit, envoyez-moi les textes de vos contes sonores, c'est génial, j'avais vraiment envie de revenir sur les mots, de pouvoir m'en imprégner, j'aurais dit, mais vous voulez pas qu'on fasse un livre? Bah si, c'était le projet de départ, bon bref, et donc... Au moment où on rencontre Anna, il vient de sortir, je crois. C'est certainement ça qu'on devait célébrer. Et c'est Régis Glass qui, à l'époque, avait fait tout le travail de la typographie et de la mise en page. Et c'était un an de travail, quoi. Donc, je pense qu'on... Et toi, t'avais ton émission et tu nous sur Radio Marais. Et je pense que c'est ça, c'était nous inviter pour parler de ce livre qui était en train de sortir ou qui venait.
C'est ça, et on avait déjà cherché à se voir et à se lire. Je pense que c'était concomitant, c'est-à-dire mon invitation à ce que vous parliez à la radio de Marais, je crois que je t'avais fait lire un texte qui était donc mon rêve. Mmh. Et tu me faisais lire aussi, je crois que tu me faisais lire ce que t'écrivais.
C'est
aussi.
Vrai. Ah ouais.
C'était quel livre? Mon rêve.
Mon rêve, le tout premier livre que j'ai publié en 2015. Et puis je lisais UV, je découvrais le premier livre des éditions Supernova, je découvrais l'équipe Supernova, et puis inversement, tu découvrais ce que j'écrivais. Et puis il y avait, je crois, un mode de vie, une façon de vouloir manger le monde, justement, et de créer des passerelles, et d'arriver à sortir d'une idéalisation de la poésie dans des beaux livres tels qu'on les voit dans nos bibliothèques municipales. Enfin, tout ça. On essaie de penser une continuité et une modernité, un renouvellement. Et je pense que, et dans la performance et dans l'édition, on s'est retrouvés, en fait, ouais, sur cette question-là.
Et vous vous êtes retrouvés aussi avec la traduction? Parce que comment est venue cette idée de traduction de Tanière de Lune?
Alors, moi, je vivais à Paris et je ressentais des vagues de sentiments d'exil ou de nostalgie parce que j'ai grandi près de la frontière de la Catalogne, d'une famille maternelle de Catalogne espagnole. Et je sentais cette corde chantante m'appeler et me demander « Occupe-toi de moi ». Et il ne s'agissait pas d'aller revivre forcément en Catalogne, mais de trouver un moyen de faire vivre cette langue, de jouer de cette corde. Et donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur Maria Mercè Marçal, qui est une poète de Barcelone, et qui a écrit son premier livre à 22 ans. J'avais 22 ans quand j'ai découvert son livre « Tanière de lune ». Et puis je vois qu'elle écrit au moment où c'en est fini avec Franco, et que son livre est une fête, un carnaval, et en même temps un n'oublie pas, et qu'il y avait une force que je n'avais pas trouvée dans la poésie catalane, dans les quelques recherches que j'avais faites en tout cas. Donc c'était traduire, c'était pour moi continuer de faire chanter ce bilinguisme, de le développer surtout, et ce texte je m'a permis de retourner en Catalogne parce que je suis allée revoir les amis là-bas pour qu'ils m'aident sur certains mots qui n'appartiennent pas au dictionnaire, qui appartiennent à l'usage oral du catalan, parce que c'est une langue qui est tellement vivante que dans chaque vallée il y a un vocabulaire différent. Et Maria Mercè Marçal avait à cœur de faire sentir ces mots qu'aucun dictionnaire n'attrapera. Et donc j'ai eu besoin d'aller sur ces terres, d'aller interroger des gens sur un certain vocabulaire, sur des images. Et parce qu'elle est très suggestive dans ces images, et que c'était bien d'avoir des interprétations qui quand même recentrent au mieux son propos. Je pense que dans les débuts et la naissance de ces éditions de poésie, et dans cette rencontre avec Stéphanie qui se développait, je pense que c'était assez évident de soutenir le projet d'une édition bilingue d'une femme poète qui est absolument pas connue en France. Je pense que Stéphanie est une passeuse en fait de voix, et qu'elle a identifié une voix à travers cette traduction pour nourrir son projet éditorial.
Ouais, Stéphanie, tu m'as dit que tu avais aussi des liens avec la Catalogne.
Bah, des liens politiques, on va dire historiques. Quand on s'est un peu intéressé à la guerre d'Espagne, on comprend. Enfin, c'est un éclairage quand même exceptionnel sur le monde actuel aujourd'hui. Et bon, du coup, ça fait tomber beaucoup de. Enfin, ça fait tomber des illusions. Ça en fait arriver beaucoup de désillusions. Et puis j'ai des liens aussi, alors moins directs qu'Anna, mais avec un grand-père catalan. Et j'ai passé tous mes étés petite. Dans cet endroit, et c'est vrai que peut-être plus que de n'importe quel autre pays de traduction qu'elle m'aurait proposé, il y avait comme une sorte de quelque chose. Oui, en fait, elle m'a embarqué dans son combat pour l'être, parce que c'était un vrai combat cette traduction, hein, parce que moi là aussi, pareil, j'étais un petit peu sur le moment. J'ai on le fait, mais j'ai vu les étapes. Des enjeux de la traduction, de la difficulté, de la peur de mal interpréter, de comment. Donc ça a été aussi pour moi vraiment très intéressant de voir Anna dans ce combat de traduction. Et quelque part, c'était aussi la première fois que je publiais quelqu'un de décédé, parce que moi je défends la poésie vivante. On en parlera peut-être après, oui, la performance, oui, oui. etc. Donc il y avait quelque chose aussi tout d'un coup une émotion et je voulais aussi être là pour supporter Anna dans le sens anglais de support, mais de et qu'on arrive à à faire entendre cette voix, ce que l'édition, c'est aussi dire avec la voix des autres ce qu'on ne dit pas soi-même. Et donc là, il y a eu tout d'un coup Anna qui traduit, mais qui traduit avec ses mots, des mots d'une poète qui est décédée à plus de 40 ans. Presque là, on s'est retrouvé un moment dans un truc d'égalité où on avait chacune une responsabilité dans la publication de ce livre-là. Mais c'est vrai que c'était très particulier parce que c'était un livre d'Anna, mais qui est un livre aussi de Maria Mercé. Oui. Donc, et je pense que c'est un des plus beaux livres qu'on ait publié vraiment et qui donc est en édition bilingue. Donc il y a le texte original en catalan et le français.
Peut-être que vous pouvez nous lire un extrait, mm-hmm. tous les deux là.
Oui. Alors. Je vais
d'anthologie peut-être.
Oui, ouais. je vais lire celui que tu as suggéré. Juste avant, je veux bien lire la devise. La devise. Alors, divisa. Alla già agresciu tres dons. Aver nascut donna de classe baixa i nació oprimida. I el terbo la giù. De ces tres voltes rebel. Je remercie le hasard de trois dons. Être née femme, de basse classe et de nation opprimée. Ainsi ce trouble azur de me faire trois fois rebelle. Et ce poème d'anthologie qui reprend un texte antique très, très misogyne et elle en joue. Voilà. Tous les poèmes ne sont pas des réécritures de textes antiques. Il y a beaucoup de déplacements de chansons populaires qu'elle réécrit, chansons populaires catalanes. Il y a beaucoup de littérature orale, de proverbes, de chants, de poèmes qui sont dits tout au long de la journée. En Catalogne, l'amour de la langue est très présent. Donc voilà un exemple de poème qu'on peut dire féministe. Diferent va fer un déu al pensament de la dona, al principi. En va fer una de la verra de crins gruixudes, tot a casa seva, en llot, en cai enllacarat, sense ordre va, i rodula per terra. Ella, bruta i amb roba llantiosa, s'engreixa, escarchufada entre deixalles.
Au commencement, un dieu conçut l'intelligence bien distincte de la femme. Il en créa une du genre de la truie à crin épais. Tout chez elle, dans la vase embourbée et désordonnée, et roule par terre. Elle, sale et habillée de vêtements huileux, s'engraisse avachie parmi les déchets.
Un altre la tragué un déu de l'astuta, guineu, i és una dona que ho sap tot. Res de bon i dolent no li escapa, i d'una cosa diu ara que és bona, ara dolenta. A l'instant l'humor muda.
Une autre. Un dieu la forma d'une renarde rusée, et c'est une femme qui sait tout. Rien de bon ou de mauvais ne lui échappe. Et d'une chose dit tantôt qu'elle est bonne, tantôt qu'elle est mauvaise. Son humeur est changeante.
L'altre ve de la gossa, esparpillada com sa mare, que tot ho vol sentir i ho vol saber. Ficar per tot el nas, només barquesa, no lluca ningú i així tot borda. No l'atura l'home amb amenaces, per més que enfurit d'un cop de roc les dents li facis trossos. Ni si és melós ni li parla, o asseguda s'està entre estranys, sinó que senderia a mantenir el seu lladruc inútil.
L'autre vient de la chienne, éveillée comme sa mère, qui veut tout sentir et tout savoir. Elle met le nez partout. Toujours cabotine. Elle ne voit personne et malgré tout elle aboie. L'homme ne peut l'arrêter, ni s'il la menace, ni même dans sa fureur. D'un lancer de pierre, il éclate ses dents en morceaux. ni s'il lui parle sur un ton mielleux, ni s'il la fait asseoir parmi les étrangers. Dans tous les cas, elle s'entêterait à continuer d'aboyer inutilement.
L'altre, els olímpics pastaren el fang i feta un nyap la darrera al barró. Res no coneix del bé ni el mal tal dona. De feines només sap la d'endrapar. I si mala invernada un déu envia, tremolosa de fred, no li ve al cap ni de posar el seient més prop del foc.
L'autre, les Olympiens la façonnèrent à partir du limon et la donnèrent toute ratée à l'homme mûr. Une telle femme ignore tout, du bien et du mal. Des choses à faire, elle ne connaît que celle d'engloutir. Et si un dieu décide que l'hiver sera mauvais, tremblante de froid, il ne lui vient pas à l'esprit de déplacer la chaise plus près du feu.
Cadascú, quan l'esmanta, l'acompanya pròpia lloa i blasma la dels altres. Tenint sort per Iona, no ho veiem. Zeus la va fer com el pitjor dels mals. La posà com un nus que no es deslliga als peus. D'ençà que la despa acollí els qui lluitaren per mor d'una dona.
Chacun, quand il évoque sa propre compagne, la loue et blâme celle des autres. Que nous partageons un même sort, on ne le voit pas. Zeus la fit semblable au pire des maux. Il la fit comme un nœud qui ne se délie pas au pied, de sorte qu'Hadès accueille ceux qui luttèrent à cause d'une femme.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, les oreilles libres, avec Anna Serra et Stéphanie Boubli. Alors Stéphanie, on parlait en fait de comment étaient nées les éditions Supernova, on en a parlé un peu. On va continuer dans cet ordre-là. Bah, peux-tu nous faire un petit, nous expliquer un peu comment c'est né? Alors est-ce que, parce que tu as parlé de la performance qui précédait les éditions. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire que, outre les textes d'Anna, quelle est la poésie et quelles sont les formes que tu défends?
Alors, je peux te dire un truc aujourd'hui, et puis ça sera peut-être dans deux ans. Ce qui est sûr, c'est que Anna parlait tout à l'heure de publier un texte, il y a une forme de sacrifice, on peut le brûler. Bon, moi, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est plus qu'à un moment, on pose des choses qui sont matérielles et on peut revenir dessus. Et très souvent, je comprends les choses quelques années après les avoir faites. À l'origine, c'est vrai qu'il y avait, en tout cas, cette envie de créer des lieux de rencontre. Je savais pas si ça serait des événements, si ça serait des livres, si ça serait des... Je savais pas la forme, mais il y avait quand même... C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les bistrots aussi, parce que c'est l'endroit où on discute, où les gens se rencontrent, on peut parler, les bancs aussi, j'aime bien, on peut s'asseoir, on peut s'arrêter. J'aimais bien voilà l'idée de pouvoir s'arrêter, échanger, créer des lieux de rencontre, et c'est vrai que à l'origine, dans Supernova, il y avait aussi quand même des chercheurs, des ingénieurs, des musiciens, des vidéastes. Mais finalement, peut-être que le point commun à tous ces gens-là était la poésie, mais je l'exprimais pas de cette manière. Après, moi, j'ai toujours écrit. Ma maison, c'est les livres. Je peux être n'importe où sur Terre si j'ai mon carnet et 5-6 livres. Mais le projet à l'origine était quand même plutôt tourné autour de la musique, parce que il y a quelque chose aussi d'universel dans la musique qui peut-être nous relie plus facilement que les mots. Donc voilà, il y a eu trois formats, un peu d'événements. Alors j'étais un peu en dans un délire sur l'espace à ce moment-là. Une supernova, c'est donc c'est une étoile qui meurt. Mais c'est l'événement le plus lumineux du cosmos, quoi. C'est-à-dire que on appelle les supernovas des lanternes cosmiques parce que grâce à leur mort, la lumière que provoque leur mort, elles éclairent toutes les galaxies alentour, et c'est ainsi qu'on peut justement découvrir ce que sont les trous noirs, l'énergie noire, la matière noire, enfin toute cette Donc on va pas dire que c'est pas de l'ordre de la luciole, parce que c'est quand même un événement cataclysmique, la mort d'une supernova.
Il y a le lien avec la poésie pulsée aussi, parce ouais. que pulsée vient aussi de pulsar, qui ouais. est ce qui reste d'une étoile quand elle ouais. a explosé, ce cœur de neutrons qui tourne très ouais. vite sur lui-même et qui émet un point radio, un point lumineux. Selon son tourbillon, une fréquence qui émane de son tourbillon suite à l'explosion. Et ce lien entre nous est
ouais,
cosmique.
Oui, complètement.
Entre supernova et le manifeste sur la poésie pulsée.
Complètement.
Nous a montré à quel point on avait un chemin, une piste, la piste des étoiles
ouais.
était à nous.
Oui, complètement. Et ce lien ne fait que ce. Enfin, voilà. Comme des brins d'ADN qui se croisent, qui se décroisent, qui se recroisent. Donc voilà, l'origine c'est ça, cette intuition que chacun a sa propre gravité, sa propre densité, mais que si on se réagglomère ensemble, ça peut donner lieu à de nouveaux systèmes solaires. Et j'aimais bien cette idée aussi, tu parles de la destruction pour créer, et donc c'est tout à fait cette idée-là. Et finalement... le fait d'après donc j'ai organisé des nuits dans un cinéma qui s'appelait le Balzac en haut des Champs-Élysées, qui était donc qu'on concevait sur place, donc on a passé des nuits entières à faire des tests, à essayer des choses, donc c'était aussi l'aventure humaine en soi. Le livre, il sort, on le défend, puis on passe à une autre étape. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le travail avant, quoi, c'est-à-dire c'est vivre. Je pense qu'il y a sont rares les auteurs que j'ai publiés, les poètes, les poétesses que j'ai publiées, avec qui il n'y a pas quand même une envie commune de se découvrir, d'avancer ensemble. Et puis après, c'est des intuitions, et à un moment, c'est de l'ordre de la nécessité aussi. C'est-à-dire que au moment de la publication aussi de Dans ce combat, qui arrivait 7 ans après la publication de Mon Reine de Anna Serra, c'est un moment où moi aussi, je publiais peut-être 3-4 livres par an, ou des fois 5. Et là, tout d'un coup, pour X raisons qu'on va pas développer ici, qui n'ont aucun intérêt, mais ok, j'en fais un, c'est lequel ? Et c'est là où je suis revenue aussi à mon noyau, enfin à mon étoile à neutrons, enfin voilà, cette espèce de donc c'est peut-être aujourd'hui que je commence un petit peu à pouvoir expliquer les choses, mais sur le coup je suis pas dans une intellectualisation. Je sais qu'on se comprend à un endroit, et la vie ne fait que confirmer les intuitions que j'ai eues il y a 15 ans en fait, mais voilà, donc je défends peut-être une certaine érudition à la poésie, c'est-à-dire qu'effectivement cette collection de poésie, peut-être que effectivement il y a un truc de l'ordre du classique, de la une certaine forme de la tradition. Tu parlais d'Henri Michaux, tu parlais de Daumal, donc je défends l'imaginaire, voilà, si je devais résumer, avec la collection Dans le Vif que j'ai montée en 2018, qui est plutôt une collection qui est quand même de la poésie, mais on va dire on est plus dans la littérature expérimentale. Là, l'idée était plus une ouverture, une photographie d'un moment de parole assez hétérogène. Dans la collection poésie, que je vous invite tous à découvrir, je pense qu'il y a quand même un trait commun à tous, et qui est... elles s'inscrivent dans une tradition, je sais pas les mots là pour la définir, mais qui est accessible aux gens qui ne lisent pas de la poésie, s'ils ont envie de se perdre et n'ont pas forcément envie d'aller d'un point A à un point B, voilà. Mais pour ceux qui la vivent, qui la ressentent, qui la lisent, qui l'écrivent, ils y trouveront leur nouveau Henri Michaux et René Daumal, et voilà.
Et alors, tu parlais des différents, enfin tu parlais de collections, mais il y a différentes collections, tu peux nous les présenter?
Alors originellement, donc il y a la poésie, puisque c'est voilà l'endroit où nous sommes, et après il y a une revue qu'on a développée aussi avec Magali Daniaud, Cédric Pigot, puisque là pareil on se croise, on se décroise, et puis ils ont aussi monté leur maison d'édition il y a quelques années, UV. Moi, j'ai pris un grand plaisir à développer cette revue. Je pensais que ça serait un peu une respiration par rapport au livre, et finalement, c'était beaucoup plus de travail. Mais l'émulsion collective, le fait de, comme un livre qui est publié répond quelque part à celui qui a été publié avant, l'aventure de la revue, c'est une petite aventure éditoriale où c'est presque une maison d'édition dans 50 pages. Et puis les choses se sont arrêtées parce que c'était les étoiles meurent, elles renaissent, donc ça s'est arrêté. Mais c'est vrai qu'en travaillant sur la revue Jungle Juice, tout d'un coup m'a sauté aux yeux plusieurs auteurs, autrices. Et je me disais, mais ils ont vraiment une couleur commune. Là pour le coup, c'était en termes de couleur, de musicalité. Et j'ai eu envie de... j'ai une vision, pareil, je peux pas trop vous l'expliquer, mais tout d'un coup, je voyais comment je voulais faire les couvertures. Quoi. Et puis, il y avait beaucoup d'humour aussi, parce que autant j'aime l'imaginaire, mais j'aime beaucoup rigoler. Et ces gens étaient vraiment... il y a une manière de retomber sur leurs pattes dans leurs textes, de des chutes aussi dans les histoires. Je pense à Benoît Toquet, à Nicolas Richard, et donc j'ai eu envie de faire cette collection. J'avais pas trop les moyens de faire ça, donc j'ai eu une aide de Agnès B, fonds de dotation mécénat, qui m'a permis de sortir en 2018 trois livres dans cette collection. Et petit à petit, ça m'a permis aussi... Enfin, ce qui est génial quand vous faites des choses concrètes, c'est que vous partez avec une idée, mais il y a plein de gens après qui entrent en contact avec vous, et ce qui a été le cas avec Julie Coutureau, dont on a publié le SNI, aussi un petit chef-d'œuvre d'écriture, vraiment à la fois le texte et ce qu'on en a fait en audio, parce que c'est aussi une pièce sonore qui est vraiment pour moi une des autrices qui me bouleverse le plus depuis des années dans son trait de la poésie sonore, parce que c'est vrai que moi j'avais un peu l'image de un peu des comment on dit, des espèces de mentors de la poésie sonore qui sont là, tout le monde crie dans les micros, tout ça, et puis d'un coup il y a Julie qui arrive et elle chuchote dans son micro, et puis c'est bouleversant. Donc petit à petit, cette collection, il y a de la prose poétique, de l'autofiction, mais c'est quand même beaucoup, on parlait de performance, c'est quand même beaucoup de la parole incarnée. Donc on a publié aussi trois quarts du temps des versions audio de ces livres-là. Et j'ai décidé de mettre en veille cette collection il y a 2-3 ans. Je pense qu'à un moment, je la réouvrirai, mais c'est un moment où j'habitais à Paris, où j'étais dans une espèce ma nécessité à ce moment-là, c'était de mettre en lumière des paroles que je trouve qu'on n'entend pas assez à ma petite échelle, parce que et aujourd'hui mon urgence et ma nécessité, elles sont ailleurs, donc j'ai mis en veille cette collection pour le moment. Donc on va dire à l'heure actuelle, il y a uniquement la collection poésie, et je publie un conte satirique, donc là on est dans encore autre chose, de Emmanuel K en fin d'année. Voilà.
D'accord. Alors, si on veut écouter, parce que tu as parlé d'audio, si on veut écouter ces audios-là, comment on fait ?
Il faut aller sur notre page Bandcamp Supernova Édition. Donc, ça doit être bandcamp.com/édition Supernova, pardon. Et tout est disponible en écoute.
Donc, tu parlais de Magali Dagneau et Cédric Pigot. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes, en fait, au sein des éditions Supernova avec toi ?
Non. comme tu disais aussi, Anna, ce qui m'habite, c'est pas forcément des personnes, mais ça va être des lectures, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est les discussions qu'on a, c'est les échanges. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu facho d'être toute seule à décider ce qu'on publie, ce qu'on publie pas? Et puis finalement, je crois que, une fois que j'ai résolu ce problème de me dire, je suis seule, est-ce que c'est pas ce truc du discours? Bon.
C'est ta création, c'est ton geste, c'est ton geste de création, et il part de ton centre, et ton geste de création embarque les autres comme un metteur en scène, en fait.
Voilà, mais je savais pas ce truc, enfin toujours je me disais, est-ce que Enfin, ça m'a questionnée parce que l'échange, à un moment, sur le choix des textes, parce que je reçois des manuscrits, parce que, d'ailleurs, j'en profite, vous excusez tous les gens à qui je réponds pas, mais voilà, j'ai un boulot la journée, donc je peux pas tout, il y a des choses que j'aimerais faire, que je ne peux pas faire, et puis à un moment, je m'arrête sur quelque chose et je me dis, est-ce que c'est pas intéressant? Et bon, après je me suis dit, j'ai pas le temps de faire des comités de lecture, je continue à écouter mes intuitions et...
Tu viens de dire quelque chose, j'ai un boulot la journée, c'est-à-dire que tu n'es pas éditrice à plein temps?
Non, c'est moi, comme tous les indés, quoi.
C'est un combat.
Voilà. On va écouter, si on écoutait Afraben, Punk and Poetess.
Avec plaisir. Donc Aline César, avec Draman Dembélé à la musique.
Afraben a 42 ans en 1682. Fermeture d'un des grands théâtres de Londres. Le théâtre ne lui permet plus de gagner sa vie. Elle a écrit 18 comédies, 2 tragédies. Ses pièces ont toujours un immense succès. Elle publie des romans. Elle écrit les Love Letters, un immense roman épistolaire. Elle traduit La Rochefoucauld et les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Elle écrit de la poésie, des dédicaces, des poèmes lyriques, des poèmes érotiques. Ses romans ont du succès jusqu'au tournant du XVIIIe siècle. Toujours, elle demande des avances à son éditeur. Afraben a 48 ans, en 1688. Jacques II abdique et fuit l'Angleterre. La glorieuse révolution amène la dynastie d'Orange sur le trône. Fin de sa vie. Fin de la dynastie des Stuarts. Perdus dans la vallée des plaisirs, les libertins sont morts. La syphilis les a décimés. Ou alors ils se sont rangés. Son ami, le plus fameux des libertins, le duc de Rochester, est mort. C'est dur de survivre à une génération. Fin de sa vie. Fin du règne des libertins. Retour des puritains, retour de la morale bourgeoise. Les marchands de la City triomphent. Le monde du duc d'York, de Rochester et de Nell Gwynn disparaît. Fin de sa vie, elle écrit Orunoko, Agnès de Castro, La Belle Infidèle, dans la même année. Elle compose Orunoko d'une traite. Je l'écrivis en quelques heures. Je n'ai en effet jamais posé ma plume un instant pour réfléchir. Le temps presse. Elle est malade. Elle boite. Elle écrit vite. Beaucoup. Elle manque constamment d'argent. Elle n'a plus ni famille, ni amis, ni appui politique. Plus les moyens pour l'appartement. Plus les moyens pour changer de garde-robe. Plus les moyens pour se chauffer. Fin de sa vie. Elle déplore de vivre une époque où les poètes meurent de faim. Vous payez vos proxénètes. Mais vous laissez crever de faim vos poètes. Arrogants, ingrats, regardez la florissante Rome antique et voyez comme elle traitait ses poètes prospères. Pleine de sagesse, elle les récompensait à leur juste valeur et libérée du besoin, elle n'écrivait que pour la gloire. L'Empereur de la Lune, 1687. Dans sa préface de The Lucky Chance, en 1687 encore. Je vais m'aventurer à vous dire quelque chose. Si toutes les pièces que j'ai écrites avaient été publiées sous le nom d'un homme, n'importe lequel, et qu'on n'avait jamais su qu'elles étaient de moi, je suis certaine que n'importe quel juge de bon sens aurait reconnu que cette personne avait écrit tout autant de bonnes comédies qu'un autre écrivain de notre époque. Mais peste, la femme que je suis condamne le poète. Tout ce que je demande et que ma part masculine, le poète en moi, puisse suivre les chemins pleins de gloire de ses prédécesseurs. Si je ne peux, à cause de mon sexe, avoir cette liberté, je repose ma plume et vous ne m'entendrez plus. Car je ne me satisferai pas d'écrire seulement pour l'argent. J'attache autant de valeur à la gloire que si j'étais née un héros. Et si vous me volez cela, autant me retirer tout de suite de ce monde ingrat. Renoncer à ses faveurs futiles. Afra, née Johnson, veuve Ben, nom de code Astrea, à 49 ans en 1689. Le crépuscule est à la porte. 13 février, Guillaume d'Orange-Nassau est couronné roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Elle refuse d'écrire l'éloge du nouveau souverain. 16 avril, la ténèbre gagne et l'emporte. Fin de sa vie. Elle est comme son héros noir, dont les valeurs chevaleresques ne fonctionnent plus dans ce monde. Ben ne se reconnaît plus dans cette décennie finissante. Elle regarde en avant, toujours, toujours un peu ailleurs. Elle voudrait que ses romans brillent, comme les médailles antiques dans les cabinets des hommes d'esprit. Les poètes prétendent que juste après les monarques, ce sont eux les plus dignes de tes glorieux lauriers. Parmi leur nombre, ne me dédaigne pas, moi qui suis la plus humble de ta noble suite. Par un double droit, je brigue tes bontés, à la fois en tant que femme et au nom d'Apollon. Permets, ô nymphe éternelle et sacrée, que telle Sappho et Orinda, par toi je sois couronnée et accorde à mes vers l'immortalité.
Donc vous écoutez Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire avec Stéphanie Boubli et Anna Serra. Alors Stéphanie, on vient d'écouter, que vient-on d'écouter ?
Alors on vient d'écouter un extrait du livre Afraben, Punk and Poetess de Aline César, qui est dédié à Afraben, qui est une dramaturge anglaise du XVIIIe siècle. Qu'un projet que moi j'ai découvert au théâtre, puisque Aline est metteuse en scène. Elle écrit, mais elle est metteuse en scène, et donc au théâtre elle ne jouait pas Afraben. Et à l'occasion de la sortie de son livre, on lui a proposé de lire son texte elle-même et de ne pas le faire lire par la comédienne qui incarnait Afraben. Et c'est une des sorties de dans le livre qui est un petit peu particulière. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est une collection un petit peu hétérogène. Là, c'est un texte de théâtre, puisque c'est le texte de la pièce, entrecoupé d'œuvres, enfin d'extraits d'œuvres d'Afraben. Et le tout est narré par les mots d'Aline César. Et c'est, on parlait de Maria Mercé Marçal et de Anna Serra. C'est un petit peu la Maria Mercé Marçal de Aline. C'est-à-dire que c'est une poète peut-être un peu oubliée qui a passé toute sa vie à combattre. Qui est une des premières féministes, en tout cas, que moi, il y a eu avant, hein, mais elle a écrit sur le mariage forcé en 1648, quoi. Donc, je veux dire, à un moment, c'était quand même quelque chose. Elle a été, je crois, la première femme de lettres à vivre de sa plume en Angleterre, avant de finir dans une déchéance la plus totale, et puis elle s'est réinventée plusieurs fois dans sa vie. Elle a été espionne sous le nom de Astrea. Donc là aussi, on rejoint les étoiles. Et Aline César a fait un travail exceptionnel pour remettre. Elle est très peu traduite, c'est-à-dire que elle a écrit 40 livres. Hein, je crois il y en a deux qui sont publiés, enfin traduits en français, et encore dans des éditions avec un regard très très colonial sur la chose. Donc ça mériterait d'être retraduit avec les yeux d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je fais ce parallèle parce que j'ai senti l'urgence d'Aline de remettre en avant avec ses mots et les mots de Afraben le combat de cette femme, comme Anna avec Marçal. Et moi, en tant qu'éditrice femme aussi, d'accompagner Aline, comme j'ai pu accompagner Anna, pour remettre, enfin, pour que cette parole-là, c'est pas parce qu'elle est date d'ailleurs de telle époque ou quoi, mais cette parole-là est tellement intéressante et tellement juste, et en même temps, elle traverse les siècles et l'éclairage qu'on peut porter aujourd'hui fait que le langage continue à vivre. Et c'est vrai qu'il y a deux personnes qui se sont deux artistes qui se sont rappelés d'Afraben et qui lui ont fait des hommages, c'est Virginia Woolf et Patti Smith. Et c'est voilà, c'était Aline César, la troisième. Et elle est actuellement en train d'écrire un roman sur Afraben et de mener tout un cycle de travail et de recherche à Canterbury, là où elle l'a vécu, là où elle est décédée. Et voilà. Et donc, on peut suivre aussi le travail d'Aline César sur le site de sa compagnie, la compagnie Asphalt.
Voilà. Toi-même, tu écris, tu es poète. Qui est Rosalie Bribe?
Une petite fille qui commence à grandir un petit peu. Non, c'est vrai que moi, j'avais pas du tout la... Je suis pas le profil d'Anna, c'est-à-dire j'ai pas fait des études, j'ai pas eu très tôt cette pratique de l'oralité, de la poésie. Moi, j'écrivais pour pas avoir à parler parce que j'avais besoin de choisir mes mots et de c'était plus facile d'écrire que de voilà, je monte les éditions, mais j'écris, bon voilà, j'ai les carnets, j'écris partout, et à un moment il a fallu il fallait que je demande une subvention, il fallait avoir publié 3 livres, et donc bon bah j'ai pris des petits bouts de poèmes à moi et ça a fait un livre quoi, pour faire le 3e quoi. Jamais de ma vie je pense que je pourrais envoyer si y en a un, j'aimerais bien peut-être faire un truc un jour, mais parce que ça sera un objet plus plastique. Voilà, mais de faire mon ambition, elle est d'être dans ma justesse à moi, et le fait de publier m'a permis d'aller dans cette de pousser plus loin, enfin de comprendre quelle était mon ambition. Et c'est vrai, quand ça reste dans un carnet dans votre chambre, quelque part on finit pas d'aller jusqu'au bout de sa pensée quoi. Et puis j'ai fait quelques collaborations avec des musiciens au fil de la vie, des rencontres. On m'a invité à faire des lectures, donc j'ai longtemps beaucoup de mal. Je pouvais pas lire mes propres textes, donc j'ai beaucoup lu ceux des autres. Je fais des lectures aussi sur la radio Pinode de temps en temps, où je prends un plaisir fou. J'ai toujours aimé lire, je suis plus une conteuse, on va dire. À lire des textes, et puis des fois voilà, j'ai la chance de comme j'aime les livres, j'ai des trouvailles et je sais que je vais lire ça à la radio parce que je pense que personne n'a ce bouquin et qu'il faut absolument que tout le monde entende ces mots. Et c'est marrant parce que c'est Anna qui m'a proposé, au moment peut-être 2 ans après que t'es monté ta radio, Radio O, elle me dit je propose à des poètes de mettre en musique des poèmes à eux, et moi je venais de rencontrer par le plus grand des hasards un ami musicien et puis guitariste, et je lui ai parlé de cette idée. Il m'a dit moi j'ai un groupe de punk, si tu veux ça nous branche bien de travailler justement avec quelqu'un qui est pas en train de crier dans un micro, qui va dire. Et donc on a fait un premier morceau, puis un deuxième. Et puis, en fait, c'est en train de devenir, avec Supernova, un des grands projets de ma vie, parce que quand vous êtes accompagné en musique et que vous lisez vos textes, c'est un cadeau immense. Et donc, de coller mon texte sur leur musique, petit à petit, on crée ensemble. Et voilà, donc ça s'appelle Terrain Vague, et c'est un projet dont je fais partie avec Aymeric Druot, Simon Daubelcourt et Nicolas Stroll. Et finalement, dont Anna, sans le vouloir, est à l'origine, quoi. Et qui est un projet qui est né en 2019, au moment où un autre projet mourait. Donc voilà, c'est...
Bon, on va écouter Terrain Vague, alors, avec le morceau Pity.
Voilà, qui parle de l'accueil de l'inspiration.
Cher et tendre Pity, qui dans mon cerveau officie sans pitié, je t'accueille aujourd'hui, le front plissé, la gueule qui bâille, le ventre qui braille. Des partitions abstraites, parties de rien, et qui parfument l'espace de ces dilles remplies d'écume.
ces deux opposés. Le rouge et le violet. Cher et tendre pitié, qui dans mon cerveau officie sans pitié, je t'accueille aujourd'hui, le front plissé, la gueule qui baille, le ventre qui braille. Et l'histoire commence ainsi. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans des pièces à soi peu fréquentables, du courage oublié, plein le cartable. Sur des partitions abstraites parties de rien et qui parfument l'espace de cédilles remplies d'écume. Nous voilà recomposés dans une double spirale, réunis en ces deux opposés, le rouge et le violet.